Bonjour Raphaël et Gabriel.
Bonjour Ruben.
Aujourd'hui, j'ai appris des informations sur Charles Quéquet. C'est une personnalité de Vierzon des années 40. Il est né le 21 janvier 1891.
Et il est mort quand ?
Il est mort le 27 mars 1956. Charles Quéquet était un résistant passeur. Il a fait de grandes choses.
Comme quoi ?
Son jardin, pendant la Seconde Guerre mondiale, passait par la ligne de démarcation. Il faisait passer les personnes persécutées par les Allemands en zone libre.
C'est-à-dire quelles personnes ?
Les Juifs et les résistants.
Moi aussi, je connais des informations.
Dis-nous-les, Gabriel.
Par exemple, il se marie avec Solange Hubert.
En quelle année ?
En 1920.
Et est-ce qu'ils auront des enfants ?
Oui, ils auront deux enfants.
Ils s'appelleront comment ?
François-Louis et Armand, qui participeront à des actions dans la résistance et qui décéderont.
Et est-ce qu'ils ont toujours vécu à Vierzon ?
Non, c'était une famille originaire du nord de la France.
Moi aussi j'en ai encore. Par exemple, il entreprend des études de médecine interrompues vers la fin par l'entrée en guerre de la France en 1939. Il termina ses études après la libération, mais ayant toutefois exercé entre-temps dans une clinique de Vierzon, diplômé, il s'installe à Montreuil-sous-Bois. Son épouse, Solange, née en 1898, qui faisait partie du réseau Patolerie, elle meurt en 1962.
Aujourd'hui, un pont à Vierzon est désigné au nom de Charles Cliquet. Merci pour ces informations, les garçons.
De rien, Ruben. Au revoir.
Bonjour, moi c'est Zoé.
Bonjour Zoé, moi c'est Mathis.
Pourras-tu me raconter de petites anecdotes sur notre ville Vierzon ?
Oui, j'en ai sur la Seconde Guerre mondiale. Savais-tu que Vierzon est durement éprouvé par la Seconde Guerre mondiale ?
Par quoi ?
Notamment par les bombardements alliés.
Savais-tu que la ligne de démarcation coupe la ville en deux ?
Non, peux-tu m'en dire plus s'il te plaît, Zoé ?
Le sud étant en zone occupée, cette ligne passe au fond du jardin du docteur...
C'est le docteur Cliquet, non ?
Oui, c'est ça. Tu te rends compte, au fond de son jardin ! Donc il a organisé une plaque tournante au profit des clandestins et des alliés.
Et Neude a été bombardée ?
11 fois, entre juin et août 1944. Pourras-tu me parler des Allemands ?
Oui, je connais 2-3 trucs sur les Allemands.
Alors dis-moi !
Dans la nuit du 1er juillet 1944, 50 bombardiers Avro-Lancaster larguent leurs bombes.
14 avions soient battus par les chasseurs allemands.
C'est l'escadrille de chasse de nuit au sein de la Luftwaffe.
Le matin du 20 juin 1940, c'est un jeudi, veille de l'été. Il y a eu de nombreuses catastrophes naturelles, non ?
Oui, après un hiver glacial, des orages et une tempête en avril. Cette année-là a connu des inondations records avec la crue de Lièvre et du Cher, qui a noyé le canal du Berry en se rejoignant début mai.
Ah oui ? Ce matin-là, deux colonnes de l'armée allemande entrent dans la ville par les routes de Neuvy et de Bourges, non ?
Oui, une chape de plomb s'abat sur la population et personne ne s'imaginait que la guerre durerait plus de 4 ans.
Pourras-tu me parler des dégâts que les Allemands ont causés ?
Oui, bien sûr, les Allemands prennent possession de plusieurs monuments.
Il faut dire qu'elle a été mise à rude épreuve.
Oui, depuis septembre 1939, début de la Seconde Guerre mondiale, des milliers de réfugiés affluent.
Ils sont encore plus nombreux le 10 mai ?
Oui, des soldats en déroute se mêlent après l'invasion de la France.
Situé sur un axe important, Vierzon a dû défiler 80 000 véhicules.
Le nombre de personnes passées par la ville, qui comptait alors 25 000 habitants, en un mois et demi, a été évalué à 120 000 personnes.
Eh bien, merci Mathis pour ces informations.
Eh bien, je le remercie aussi pour ces précieuses informations. Au revoir Zoé.
Salut, moi c'est Zaya.
Salut, moi c'est Sheida.
Je vais te raconter une petite anecdote, j'espère que tu vas aimer. Dis Sheida, tu sais qui est Célestin Gérard ?
Non, je ne sais pas.
Il est né en 1821, il est mort en 1885. Célestin Gérard était un compagnon menuisier qui s'installa à Vierzon. Tu connais son autre métier ?
Je ne sais pas, dis-moi.
C'était un inventeur de génie. Il sera à l'origine de la première locomotive française. Il vendra son usine à la famille Arbel.
Merlin Bouhot. La Vierzonaise se lanceront après la française dans l'aventure agricole au tournoi du XXe siècle. Grâce à Centre Sciences, association ayant pour objectif de promouvoir la culture scientifique. Un film promotionnel retraçant l'histoire de ces 5 lieux a pu être réalisé. Tu sais comment est intitulé ce documentaire ?
Je ne sais pas comment il est intitulé.
Il est intitulé 5 paroles pour une voix.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci de nous avoir écoutés.
Bonjour, je m'appelle Nolan.
Bonjour, je m'appelle Amélis.
Bonjour, je m'appelle Enora.
On va vous expliquer ce qui s'est passé au Moyen-Âge à Vierzon. Un château est bâti à quelle époque ?
Je ne sais pas.
à l'époque mérovingienne. Selon la tradition berrichonne, en 903, une abbaye est bâtie par les moines bénédictins sur le lieu de l'actuel hôtel de ville. Ces moines venaient de l'abbaye de Drèves ou Dreuve. À quelle ville ?
Je ne sais pas.
À Saint-Georges-sur-la-Prée, saccagée par qui ?
Les Vikings. Ils transfèrent dans l'église de l'abbaye de Vierzon. Sais-tu quoi ?
Non.
Les reliques de Sainte Perpétue. Auparavant gardées à Drèves, ces reliques sont à nouveau transférées dans sais-tu quelle église ?
L'église Notre-Dame de Vierzon.
En 1791, où elles sont toujours conservées. Sais-tu à quel siècle les Vikings y fortifient une motte castrale ?
Non.
Au Xe siècle, ils deviennent seigneurs de Vierzon et la ville se développe à l'intérieur des remparts à l'ouest du château.
En 980, Humbert le Tortue, seigneur de Vierzon, fera construire dans les alentours une forteresse constituée d'une motte fortifiée. Cette forteresse, plusieurs fois modifiée et agrandie par la suite, restera dans la maison de Vierzon plusieurs siècles et deviendra le château de Fontaine-Humbert. En 1196, les troupes de Richard Cœur de Lyon s'emparent de Vierzon et la pillent.
Plus tard, la ville est incendiée ainsi que le château et l'abbaye. En 1370, Bertrand du Guercin en chasse les Anglais et redonne Vierzon à la couronne de France. La ville deviendra alors un des centres de ravitaillement des armées de Jeanne d'Arc. Plus tard, elle ira délivrer Orléans.
En août 1356, lors de la chevauchée du Prince Noir, Vierzon était alors entouré d'un certain nombre de ces mottes féodales qui contrôlaient les voies d'accès, pouvaient prévenir la ville. Merci beaucoup.
Merci pour ces informations, les filles.
Merci, toi aussi, Nolan.
Toi aussi, Nora.
Bonjour, Andy. Savais-tu que Vierzon était bombardée en 1944 ?
Bonjour Enzo, oui, ces Vierzon est épargnée par la Première Guerre mondiale et notamment par les bombardements alliés.
Bonjour, je m'appelle Casey, mais ça s'est passé quand ?
Dans la nuit du 1er juillet 1944 et 14 avions sont bombardiers sont abattus au-dessus de la ville.
Ok, mais par qui ?
Par les avions de chasse allemandes.
Où cela s'est-il passé exactement ?
Au-dessus de la gare de triage.
Est-ce qu'il y a eu des morts ?
Oui, 52 exactement.
Je suis sûre qu'il y a eu des livres sur les bombardements.
Oui, l'auteur du livre, Bernard Steele, qui raconte les trois bombardements à Vierzon du 29 juin au 1er juillet 1944.
J'ai une ou deux dernières questions.
Lesquelles ?
Pourquoi Vierzon a été bombardé ?
27 voies ferrées sont importantes. Le centre de triage était l'un des derniers objectifs à anéantir. 53 convois par mois partaient vers Orléans, 57 vers Saint-Cécaire et des trains entiers vers le Reich.
Qui ont abattu les avions ?
Par la DCA, la défense anti-aérienne allemande, à l'abri, à Belon et rue des Ponts, à l'est de l'importance du centre de triage.
C'est quoi le Reich ?
C'est l'Allemagne.
Au revoir Andy et Casey, et merci.
Au revoir Enzo et Casey, et merci.
Au revoir Andy et Enzo, merci.
Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 10 ans.
Bonjour, je m'appelle Élisée et j'ai 11 ans. Lola, savais-tu jusqu'en 1779 ? Vierzon vivait du commerce et de l'artisanat, puis vint le temps de l'industrialisation.
Ah bon ? Tu as oublié quelque chose. Le travail du fer marque le début de l'industrialisation de Vierzon. 1779, le comte d'Artois, futur Charles X, crée une bordure de lièvre, une forge avec fonderie et haut fourneau.
Moi, je vais te raconter quelque chose. Blotti autour de son château, sur les hauteurs de la ville, Vierzon a d'abord vécu entre ses remparts avant de serpenter dans ses faubourgs.
Moi aussi, je vais te raconter quelque chose. Agglutinée autour des principales voies de communication, elle s'est étendue au gré des circonstances naturelles et économiques, blottie contre les parois de sa vaste forêt et de ses rivières, d'une part et d'autre part, contre la joue de son canal et de sa gare ferroviaire. Merci Alizé.
Merci Lola.
Bonjour Camélia.
Bonjour Cochise.
Savais-tu, Camélia, qu'il y a une station préhistorique dans le Cher ?
Oui, bien sûr, sur une ancien atelier de taille du Silex situé dans le quartier de Bellon au sud de Vierzon.
Ah oui, l'histoire antique de Vierzon est elle aussi très passionnante. Vercingétorix a sûrement détruit Vierzon.
Oui, contre César, car c'est l'un des 20 villes détruites par celui-ci lorsque duchesse d'Avaricum par César.
Avaricum, c'est le nom romain de Bourges.
Oui, exactement. Et savais-tu qu'un opulent gallo-romain a servi à la fence de l'entrée ouest du Berry ?
Si je ne me trompe pas, c'est dans cette même ville de Bourges que l'oppidum a été établi sur une butte.
Oui, exactement, car exposée au midi, elle surveille les confins de Lièvre et du Cher.
Même qu'on dit que la forêt et la saône le protègent sur le flanc nord.
J'ai appris vraiment que dans les années 1950, dans le sol du bois de Lièvre a été découvert une structure en bois.
J'ai lu que c'était sûrement les fondations d'une route antique. Cela a relancé les spéculations pour cette que Vierzon était en fait Avaricum.
Oui, l'ancien instructeur vierzonais Joseph Sapourin pense cela de toutes ses recherches tentant à le démontrer.
Tori vite écartée pour les archéologues et les découvertes qui ont suivi.
Une rançon découverte au fond des prés du vieux domaine à l'est de Vierzon est en train de relancer le plus folle spéculation.
Affaire à suivre. Merci à toi Camilla et à tous les auditeurs.
Bonjour, je m'appelle Pauline.
Bonjour, je m'appelle Zoé.
On vient de l'école des Forges.
Comment est le blason de Vierzon ?
Une tour penchée, crénelée d'argent, avec un fond d'un bleu d'azur.
Pourquoi la tour est-elle penchée ?
Une tour penchée signifie la chute du pouvoir seigneurial. Le blason ne comportait qu'un simple écu. Il a ensuite été complété au fil du temps. Mais maintenant, on retrouva une tour droite au début du XXe siècle.
Est-elle toujours existante ?
Discrètes, elles sont disséminées un peu partout. Sur la façade de l'hôtel de ville, dans l'église Notre-Dame, jusqu'au cachet officiel de la municipalité. Les armoiries de la ville restent depuis des siècles sa signature.
Hé hey Pauline, tu sais ce qui s'est passé pendant la Révolution française à Vierzon ?
Il n'y avait pas 4 communes qui se sont regroupées pour former Vierzon ?
Oui, mais ce n'est pas tout. Il y avait 2 communes, Vierzonville et Vierzonvillage, et Vierzonvillage se sépara pour former Vierzon-Bourgneuf. En 1908, ce fut la création de Vierzon-Forges.
Et puis les 4 communes se regroupent pour former Vierzon. Et tu sais pourquoi ?
Oui, à cause de jalousie du clocher et au détriment de l'harmonisation du service de l'urbanisme, de l'assainissement ou de l'énergie. Il fallut un arrêté préfectoral du 8 avril 1937 pour que les 4 communes se réunissent à nouveau.
Sais-tu sur quel emplacement a été bâti l'hôtel de ville ?
Oui, sur l'ancienne abbaye Saint-Pierre.
Merci Zoé pour toutes ces informations.
Merci Pauline pour toutes ces informations.
On vous souhaite une très bonne journée.
Bonjour Ruben.
Bonjour Maxime.
Sais-tu qu'il y a très longtemps, à Vierzon, un château a été construit à l'époque mérovingienne selon la tradition ?
Non, je ne connaissais point. Mais toi, est-ce que tu sais qu'en 903, une abbaye y est bâtie par les moines bénédictins ?
Ah bon ? Je l'ignorais. Mais on m'a dit que l'abbaye était construite à côté de la mairie. Pour être plus précis, à la place de l'hôtel de ville.
Je ne peux pas le prouver. Mais et toi, connais-tu d'où viennent ces moines ?
Non, ils venaient d'où ?
Ils venaient de Dèvres ou d'Œuvres.
Ah oui, c'est vrai, je l'avais déjà entendu.
Et aussi, tu n'es pas sans savoir que ces moines venaient de Dèvres à Saint-Georges sur la Prée. On vu leur abbaye saccagée par les Vikings.
Non, je n'avais pas lu cette histoire. Mais toi, avais-tu déjà entendu dire que en 1370, Bertrand du Guesclin chassa les Anglais de Vierzon et les redonna à la couronne de France? Merci pour toutes ces informations, Ruben.
Merci de même, Maxime.
Bonjour, moi c'est Alonso.
Bonjour, moi c'est Juliane.
Bonjour, moi c'est Anya.
La forêt de la rivière, le combustible et la force motrice de Vierzon est un site idéalement placé qui explique en partie sa rapide vocation industrielle. Savais-tu, Anya, que Vierzon est un site idéal ?
Pour rentabiliser, je cite, le comte d'Artois, futur Charles V, alors seigneur de Vierzon, décide en 1679 la création d'une forge. Anya, qu'est-ce que la forge fabrique-t-elle ?
Cette forge fabriqua des outils agricoles avant de se tourner vers la production d'armes lors des guerres révolutionnaires.
Deuxième type d'institutrice à voir le jour. La porcelaine, une première manuscrite de ce type s'ouvrage en 1816 près du château de Bel Air.
D'autres usines seront créées qui feront de Vierzon un centre important de porcelaine et autres productions en Berry.
Mais Vierzon va surtout bénéficier d'infrastructures importantes. Le canal de Berry et le chemin de fer, ouvert en 1829, le canal relie le bassin houillé de Commentry à Tours.
Quand à la gare de Vierzon, elle est inaugurée en 1896 sur la ligne du Paris-Orléans. Ces deux voies permettent à Vierzon la réception de produits manufacturés.
La dernière industrie est celle du machinisme agricole avec, en 1847, l'installation à Vierzon du Vosgien. Célestin Gérard qui rendra à le nom de Vierzon célèbre dans toutes les campagnes françaises.